peine les restrictions allégées hier, les Français ont retrouvé leurs habitudes.
Enfin, enfin !
Café du matin au bistrot, sortie culturelle ou soirée au restaurant avec la permission de 23h.
Honnêtement, ça fait du bien et on voit des potes, on rigole, on s'amuse un peu. Donc c'est tout ce qu'on voulait. On est un peu de retour à la vie d'avant.
Mais la vie sans Covid, ce n'est pas complètement gagné. Pour parvenir à l'immunité collective, 80% de la population doit être vaccinée. Or, en ce moment, la vaccination marque le pas. Emmanuel Macron tente de remobiliser les Français.
Les gens qui avaient peur se sont fait vacciner. Et puis comme ça semble aller mieux, les gens qui se posaient un peu la question n'y vont pas. Je vous le dis à toutes et tous. Le vaccin, c'est le seul moyen de nous sortir de l'épidémie.
Face aux récalcitrants et aux anti-vaccins, les États-Unis ont employé les grands moyens.
Slager is the first winner in the state's $5 million giveaway to get more people to get vaccinated.
Des loteries, mais aussi des cadeaux, une bière ou un donut à chaque vacciné.
Come and get it. It's real.
La France mise, elle, sur la prochaine ouverture de la vaccination aux adolescents et sur la proximité. Des vaccidrives et des vaccibus facilitent l'accès aux vaccins en ville comme en zone rurale. Mais des Français sceptiques font de la résistance, comme cette centenaire.
Chacun sa liberté. Quant à moi, je n'ai jamais été vacciné.
Alors, pour éviter une quatrième vague, faut-il rendre la vaccination obligatoire ? Le pass sanitaire, qui permet depuis hier d'accéder à de grands événements, concerts ou rencontres sportives, va-t-il être généralisé ? Vaccination ou libertés individuelles, faut-il choisir ?
Et autre détournement ou harcèlement, Nicolas Bouzout, dans ces fameux cahiers, on doit laisser son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son adresse mail éventuellement. On se souvient que quand ça avait été mis en place à l'automne dernier, on avait constaté en effet des dérives du démarchage, etc. Est-ce qu'on s'est assuré que ça ne se reproduise plus aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé depuis ?
Non mais ça doit être interdit si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a quand même la CNIL. Oui. Mais si vous voulez, il s'agit de faire respecter le droit. Donc on a une CNIL en France.
La commission informatique.
Pardonnez-moi, voilà. Qui veille, et qui est franchement l'une des plus efficaces au monde, qui veille à ce que les données personnelles ne servent pas justement à du démarchage commercial. C'est très exactement la même chose d'ailleurs avec votre application Tous Anti-Covid. Vous transmettez aussi des données, mais ces données, elles ne sont pas censées. Et je pense très honnêtement qu'elles ne sont pas transmises à qui pourrait en faire un usage commercial.
On y reviendra tout à l'heure au cours du débat. Mais d'abord, soyons précis.
Posons les choses, Serge Lama. Quelle est la différence entre le passeport sanitaire et le passeport vaccinal qu'on y voit clair ?
Eh bien, un passeport vaccinal, ça supposerait une obligation vaccinale. Donc, seules les personnes vaccinées pourraient accéder à ces infrastructures. Mm-hmm. Là, c'est vraiment un pass sanitaire, c'est-à-dire ça contient le test PCR de moins de 48 heures, le vaccin, bien évidemment. Alors, c'est deux vaccins pour quand il y a deux obligations.
Deux injections.
Vaccins, deux injections. Et éventuellement un certificat de rétablissement pour les personnes qui auraient été atteintes du Covid et qui seraient rétablies, par exemple Emmanuel Macron qui a eu le Covid. Et donc on voit bien qu'on n'exclut pas, c'est pas réservé uniquement aux vaccinés, on l'a vu au Stade de France ou à Roland-Garros, des personnes non vaccinées pouvaient même accéder à ces enceintes.
D'accord. Alors, le chiffre du jour, Benjamin.
Eh bien, 35% des Français restent récalcitrants au vaccin, ne veulent pas se faire vacciner, sauf que pour atteindre l'immunité, eh bien, il faut 90% des Français, selon l'Institut Pasteur. Alors, Maryse Artigue-Long, comment vous expliquez cela ? Est-ce que 90% des adultes, je précise, pour arriver à l'immunité, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut des incitations fortes ? On l'a vu dans le sujet, comme aux États-Unis, faire des cadeaux, ou alors il faut carrément aller à l'obligation ? Quelle est votre opinion ?
À la Ligue des droits de l'homme, on n'est pas du tout pour l'obligation vaccinale, évidemment.
Et l'incitation, alors ?
L'incitation, la pédagogie. Je pense que c'est essentiel de faire de la pédagogie, expliquer que le vaccin, ce n'est pas uniquement pour soi, mais c'est aussi pour protéger les autres, ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales ou parce qu'ils n'ont pas accès au centre de vaccination. On a bien vu à quel point c'était compliqué. Donc, je pense que si c'était plus facile aussi, le taux de vaccinés serait plus important.
Elle est un peu plus aujourd'hui qu'il y a encore quelques semaines.
Oui, sauf que à l'heure actuelle, apparemment, les centres sont plutôt vides. Ah oui. Donc il y a problème de vacances. Je pense que les gens pensent plutôt être en terrasse ou à l'intérieur des restaurants que d'aller se faire vacciner, ce qui est quand même regrettable. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment d'explications. Il y a eu des problèmes avec certains vaccins. Donc c'est
ça
quand même
découragé. Mais Nicolas Bouzou, est-ce qu'il faut aller jusqu'aux sanctions ? Vous n'êtes pas vacciné, ben, vous payez une amende.
Alors, ça, en fait, ce serait une forme d'obligation. C'est-à-dire que je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Si la pédagogie marche, évidemment, il faut en rester à la pédagogie. Mais le sondage vous-même que vous venez de donner montre que la pédagogie est peut-être insuffisante. Et même dans des pays où la part des gens qui sont hostiles au vaccin est beaucoup plus faible qu'en France, c'est le cas aux États-Unis, on voit qu'ils arrivent quand même à un plafond. Donc, après la pédagogie, il faut en arriver à des mesures qui sont des mesures d'incitation, mais qui sont un peu coercitives. Je ne vais pas vous mentir, ce serait malhonnête de ma part. C'est-à-dire la généralisation du pass sanitaire. Il y a un pass sanitaire aujourd'hui pour les événements qui regroupent plus de 1000 personnes. À titre personnel, je suis favorable à ce que, comme ça s'est fait en Israël, ça n'est plus le cas maintenant, ou en Allemagne, ce pass sanitaire, pendant l'état d'urgence sanitaire, par exemple, soit requis pour entrer dans dans tous les lieux publics. Donc il n'y a pas d'obligation, mais de fait, on est quand même un peu obligé de se faire vacciner.
Pas d'accord, Serge Sallama.
Non, une obligation vaccinale aussi large poserait problème, notamment au regard des incertitudes sur les effets du vaccin à long terme, par exemple, ou sur certaines populations, par exemple les enfants, on a quand même une incertitude. Alors, il peut y avoir des obligations vaccinales. La Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État se sont déjà prononcés. Vous savez, il y a 11 vaccins obligatoires à l'école, par exemple. Les personnels de santé doivent se vacciner de manière assez large. Et il y a aussi des obligations vaccinales pour voyager outre-mer, par exemple, la fièvre jaune.
Mais alors, qu'est-ce qui l'empêcherait sur ce vaccin?
Donc, vraiment, il peut y avoir des obligations vaccinales, mais pour des vaccins, donc, connaît bien les effets
dont on a suffisamment
à long terme,
dans le temps,
de recul dans le temps et de connaissances scientifiques. Pour l'instant, malheureusement, on n'a pas ce recul sur ces vaccins-là. Et donc, je pense que l'obligation vaccinale serait une erreur pour l'ensemble de la population. Mais on peut envisager des obligations ciblées.
Pour des populations particulières.
Par exemple, les personnels de santé ou les enseignants. Voilà.
Et bien justement, on va en parler avec Nadia. Vaccination des professions prioritaires.
Oui, parce que les professionnels de santé sont prioritaires depuis assez longtemps, depuis le mois de février. Pourtant, on constate aujourd'hui qu'un tiers d'entre eux n'est toujours pas vacciné. Et ce, alors que c'est devenu une maladie nosocomiale et que 44 000 cas de contamination au Covid-19 à l'hôpital ont été signalés depuis un peu plus d'un an. Cette réticence à la vaccination, elle tient en partie aux doutes, vous en parlez, qui ont pesé sur le vaccin AstraZeneca. C'est avec ce vaccin qu'ils ont été vaccinés dans un premier temps. En tout cas, cette situation, elle est jugée suffisamment inquiétante pour que l'Académie de médecine tranche en faveur de la vaccination obligatoire pour tous les professionnels de santé. Elle a jugé que l'hésitation vaccinale était, je cite, éthiquement inacceptable chez les soignants. De son côté, le comité consultatif d'éthique n'est pas du tout du même avis. Il a estimé qu'il fallait œuvrer avec pédagogie et non coercition. On leur a déjà demandé beaucoup, disent-ils. Sur le plan législatif, une sénatrice, la sénatrice LR des Alpes-Maritimes, qui s'appelle Patricia Demas, elle a déposé une proposition de loi sur l'extension de l'obligation vaccinale des professionnels de santé à la vaccination contre la Covid-19, sachant qu'ils sont déjà contraints aujourd'hui d'être vaccinés contre la diphtérie, par exemple le tétanos, l'hépatite B ou encore la tuberculose. Voilà où on en est aujourd'hui des débats en France. En Italie, par exemple, ils sont allés beaucoup plus loin puisque les soignants, en tout cas les soignants des services publics, qui refusent ouvertement de se faire vacciner, ils risquent désormais la suppression de leur rémunération jusqu'à la fin de l'année. Marie Zartigon, est-ce qu'il faudrait, je me doute de votre réponse, mais est-ce qu'il faudrait contraindre malgré tout les soignants, sachant qu'effectivement, ça n'est pas n'importe quel métier. Je pense également aux enseignants. Est-ce qu'il y a certaines professions qui mériteraient, oui, d'être contraintes?
Vous voulez me faire changer d'avis, c'est ça?
Non, on voudrait votre avis déjà.
Enfin, vous pouvez
peut-être changer d'avis, oui.
Non, de toute façon, on est contre l'obligation. Je pense que les parallèles que vous faites avec les autres vaccinations ne tiennent pas absolument parce qu'on n'a pas suffisamment
de recul. C'est pas moi qui le fais, hein, c'est la députée qui a déposé le projet de loi.
Oui. on n'a pas suffisamment de recul sur les vaccins contre la Covid.
Oui, mais on a suffisamment de recul pour savoir qu'en tant que maladie nosocomiale, elle a beaucoup tué
cette maladie
à l'hôpital, notamment, et des gens qui venaient à l'hôpital et qui en sont morts parce qu'ils l'ont contracté.
Oui, non, mais je suis d'accord.
C'est le problème.
C'est vrai, moi, je pense qu'on leur a tellement demandé que les obliger à se faire vacciner, c'est encore une coercition.
Il y en a encore beaucoup qui ne le sont pas, mais Serge Lama, du coup, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt national au-dessus de tout ça, une sorte de solidarité qui doit s'imposer?
Il y a un enjeu de responsabilité hospitalière, déjà, je veux dire, vous avez dit, il y a des infections nosocomiales, donc on viendra forcément à la vaccination obligatoire pour les personnels de santé.
Et les enseignants?
Les enseignants, c'est peut-être plus compliqué, mais là, vraiment, les hôpitaux accueillent des malades fragiles, et si c'est les personnels de santé qui véhiculent le virus, c'est problématique. Mais il ne faut pas rappeler qu'à l'hôpital, il y avait un accès inégalitaire au vaccin, notamment sur l'AstraZeneca ou le Pfizer. Il y avait une lutte des classes qui jouait
c'est
à l'hôpital.
C'est-à-dire c'est
bah, vraiment, les médecins avaient plutôt Pfizer,
les infirmières
sages-femmes plutôt AstraZeneca. Il y a beaucoup d'inégalités à l'égard, dans l'accès au vaccin. Hein. Ça a été montré, la Covid, une maladie très inégalitaire, notamment à l'égard des populations immigrées ou de certains départements. Et donc peut-être qu'il faut régler ces problèmes-là.
Partout l'Outre-mer, entre
voilà. Et l'Outre-mer aussi. Mais, donc, et à mon avis, là, il faut à un moment donné, on y viendra parce que les hôpitaux pourront pas être facteurs de propagation du virus alors qu'on aura réussi à canaliser ailleurs. Alors après, pour les personnels enseignants, c'est un petit peu différent. C'est l'idée plutôt de permettre une protection et éviter que ça se diffuse à travers les enfants, puisque a priori, les enfants ne seront pas vaccinés ou les derniers vaccinés. Donc là, il y aura d'autres enjeux qui se poseront.
Oui. Non, je voulais ajouter que sur les hôpitaux, il faudrait peut-être augmenter les moyens, parce que quand on voit les conditions dans lesquelles le personnel soignant a travaillé,
ils n'avaient pas de blouse,
ils n'avaient pas de masque. Enfin, franchement, donc je pense qu'il y a quand même peut-être qu'il faut accompagner l'incitation,
la demande avec
avec
quelque chose
l'augmentation
de plus
des moyens
positif,
pour, voilà, pour
salaire et des moyens alloués aux hôpitaux.
Mais Nicolas Bouzou, est-ce qu'il ne faut pas contraindre la solidarité nationale? Est-ce que quelque part, il ne faut pas dire aux gens soyez solidaires, donc soyez faites-vous vacciner?
Ah, mais moi je trouve que là on a une discussion comme si on parlait d'une maladie au fond qui était une maladie émergente, pas extrêmement grave. Je voudrais quand même rappeler que le mouvement de baisse de la pauvreté, il s'est interrompu l'année dernière. Le mouvement de baisse de la malnutrition dans le monde, il s'est interrompu l'année dernière. Que cette maladie, elle a un taux de mortalité qui est important, qui n'est pas énorme, mais 10% des gens qui souffrent de cette maladie vont à l'hôpital. Il n'y a pas un système de santé au monde qui résiste à ça. Voilà. Vous pouvez tous les prendre. Il n'y en a pas un qui résiste à ça. Donc, il faut bien qu'on fasse quelque chose.
Il y a des Covid
longs. Il faut qu'on avance. Il y a les Covid longs. Vous avez tout à fait raison. Peut-être 10% des Covid sont des Covid longs. Donc, si vous voulez, il y a un moment où je pense qu'il faut bien qu'on en sorte. Et moi, ce que je crains beaucoup, c'est une reprise de l'épidémie en septembre. Ce que l'on voit en Angleterre, c'est que même une reprise de l'épidémie pas très forte engorge les systèmes hospitaliers. Ouais. Donc, mon obsession, et ça m'amène à dire des choses. Vous savez, j'ai pas envie d'être pour l'obligation. Ça me plaît pas de dire quelque chose qui, en plus, est impopulaire et qui me vaudra des menaces
libérale,
encore,
avec
voire pire.
Votre orientation libérale, ça surprend beaucoup de monde, Nicolas Bouzou.
Eh ben oui, mais ça surprend beaucoup de monde parce que je considère que celui qui est liberticide dans cette affaire, c'est le virus. C'est lui qui nous enferme et c'est lui qui nous empêche de vivre et moi, je veux m'en libérer.
Mais est-ce que c'est ça qui vous fait peur? Est-ce que vous dites cet échange de données, c'est liberticide et puis on va disséminer nos données partout dans le monde?
Non, c'est pas une question de peur. entendons-nous bien. C'est une question de protection des données, de protection de la vie privée.
Vous avez un compte Facebook?
Non.
Non, ah bon? Ah bah voilà. Alors vous protégez.
Mais
vous
avez l'interrogatoire.
Non, mais vous avez un téléphone. Vous avez peut-être un téléphone et vous avez un smartphone.
Oui. Mais je n'ai pas l'application.
Tous ceux qui nous écoutent se disent qu'ils sont déjà pistés. On laisse déjà notre empreinte.
Et siphonnés.
Bien sûr qu'on est pistés. Ouais. Mais les données de santé sont des données particulièrement sensibles. Le QR code, il permet éventuellement à tout un chacun d'avoir des données de santé, plus l'identité de la personne. Il y a en plus un petit bout de Google dans l'application tous anti-Covid. Donc, vous savez très bien que les GAFAM sont vraiment très friands de données personnelles et des données de santé, notamment parce qu'ils veulent se lancer dans le business des assurances. Et pour eux, ça serait tout bénéfice.
Et les monétisent, en fait, ces données,
bien sûr,
après, ils le transforment.
Bien sûr.
Alors, comment fait-on, je demande à votre voisin, comment fait-on par rapport à cette contradiction?
Déjà, il faut bien distinguer.
Liberté et santé, comment fait-on?
Il y a le certificat vert européen. Donc ça, c'est un règlement européen qui permet de circuler. Et c'est un système de certification de ce qu'on a dit tout à l'heure. Test PCR, vaccination ou rétablissement. Et au niveau français, on met en place ce pass sanitaire sur l'accès à des structures de plus de 1000 personnes. Donc c'est pas c'est Roland-Garros ou le Stade de France par exemple. Et ce qui est problématique en fait, c'est pas un QR code en fait, c'est un data mix, un 2D doc. Et d'une part, il est facilement lisible d'un point de vue technique. N'importe qui peut le lire. Il faudrait pas le montrer là, il est un peu brouillé.
Vous voulez dire quand vous dites n'importe qui, c'est même pas un hacker.
Avec un appareil,
vous pouvez facilement. Avec un appareil dédié.
Il est facilement lisible et en fait, pour l'instant, ils ont fait le choix qu'il y a une transmission de données. Il y a un système d'authentification avec des transmissions de données par un serveur. Et en fait, c'est ça qui est critiqué, notamment par la quadrature du net. Il y a un recours qui a été annoncé.
Ce serveur, il pourrait être piraté?
Parce que déjà, il y a une partie du serveur qui utilise des systèmes de vérification auprès de serveurs d'autres pays. Donc, il y a toujours une crainte que les données soient transmises à l'étranger. On avait le même problème pour l'Est Data Hub. Et ensuite, il y a, vraiment au moment de la certification, il y a des risques. Mmh. C'est là où vraiment il y a un risque numérique. Et il paraît, enfin moi je suis pas spécialiste, mais ceux qui sont spécialistes, oui. C'est qu'on pourrait avoir une certification locale, une vérification locale, parce qu'il faut vérifier l'identité.